Excellences, Révérend Père, chers confrères, messieurs, mesdames, comme Monseigneur vient de le dire, après l'américanisme et le calicanisme ce matin, donc maintenant, nous allons parler de l'influence des théologiens allemands sur le Concile Vatican II. Dans son ouvrage concernant le déroulement historique du Concile Vatican II, Ralph Wildken mentionne, citation, « la forte influence allemande, voire la dictature de l'élément allemand, qui se fit surtout sentir dès la deuxième session. Il arrive à la conclusion que, citation, la position des évêques de langue allemande fut régulièrement adoptée par l'Alliance européenne, et la position de l'Alliance fut le plus souvent adoptée par le Concile. Ce point de vue serait-il exagéré? L'influence des évêques français ou américains ne semble-t-elle pas avoir été plus grande au Concile? Notre propos sera de prouver le bien fondé de cette thèse et d'expliquer comment l'influence quasi dictatoriale de nombreux évêques de langue allemande au Concile fut possible et en quoi elle consistait. De plus, nous montrerons quel rôle les théologiens allemands y jouaient et de qui il s'agit. Il importe aussi de considérer le temps juste avant le Concile et l'influence de Karl Rahner. Nous présenterons donc simplement les faits historiques, laissant à d'autres le soin d'analyser et de réfuter les thèses défendues par les théologiens allemands. Cette manière de procéder nous semble le mieux servir la vérité. Et pour ne pas dépasser les 50 minutes concédées, je passe les trois premiers chapitres. Voilà. De ma conférence que vous trouvez dans le texte italien, à savoir la position et l'importance des évêques de langue allemande, dont avant tout les trois cardinaux König de Vienne, Döpfner de Munich et Frings de Cologne. Ils n'étaient pas seulement des organisateurs habiles, mais disposaient de soutien à l'arrière-plan. Il s'agit d'une poignée de théologiens dont l'activité devait marquer le Concile de manière décisive. Ça, c'est le deuxième chapitre de mon exposé que j'omets également, chapitre qui parle en général du rôle des théologiens, donc des periti au Concile, et en particulier de celui des théologiens de langue allemande. Notons que grâce à l'Alliance ouest-européenne admirablement organisée et aussi en raison de l'influence puissante de quelques théologiens, il était devenu possible de manipuler la majorité des voix. Wildken dit, il suffisait qu'un seul théologien fît adopter ses vues par les évêques de langue allemande pour que le Concile les fît siennes. Or, le théologien Karl Rahner fut de ce nombre. Comme son conseil fut sollicité par une grande partie des évêques allemands et autrichiens, il a exercé avec d'autres experts allemands, notamment Josef Ratzinger, Alois Grillmeier, Otto Semmelroth, Bernhard Ehring, Hans Küng et Friedrich Wolff, une influence indéniable sur le déroulement et les décisions du Concile Vatican II. Le troisième point de la conférence qui met en relief la vie de Karl Rahner et son œuvre pour mieux comprendre sa pensée en matière de théologie et son agir au Concile, je l'omets donc aussi, je mentionne simplement son origine philosophique, qui est une des causes pour sa nouvelle théologie. Il était déjà, par le professeur Daladone, question de la subversion du thomisme au Concile. Alors Karl Rahner étudia le thomisme, la métaphysique de saint Thomas d'Aquin, selon la méthode de Maréchal. Maréchal, ce jésuite belge, avait essayé d'utiliser la méthode transcendantale de Kant au profit de l'épistémologie thomiste. Deux ans après sa mort, lors d'un entretien, donc 82, Rahner avoue avoir étudié un thomisme faussé par le transcendantalisme, puisque étudié à la lumière de Maréchal, Kant et de l'idéalisme allemand. Et il dit: « Je me sers également en théologie de ce thomisme sans aucun scrupule. » Et pour son doctorat, ça aussi qui est à ajouter, pour son doctorat de philosophie, il présenta une analyse sur saint Thomas d'Aquin intitulée « Geist in Welt »,« Esprit dans le monde ». Il s'agit de, citation, « la métaphysique de la connaissance limitée » ou de l'esprit dépendant des sens, où Rahner admet la possibilité d'une connaissance, citation, provenant de la source de la sensibilité qui sort de l'esprit. Donc, c'est la sensibilité qui est le produit de l'esprit. Ce qui est contraire à la philosophie thomiste qui affirme « Nihil est in intellectu, quod prius non erat in sensu ». Sans compter ses innombrables conférences et sa participation active à des cercles de discussion, sur l'œcuménisme, un institut pour le dialogue entre science et foi, dialogue avec les marxistes, etc., Rahner a laissé une immense œuvre littéraire et théologique, comptant à sa mort plus de 4000 titres. Beaucoup ont été traduits en d'autres langues. Alors, parlons maintenant de sa pensée, la pensée de Rahner, ou du tournant anthropocentrique au christianisme anonyme. Herbert Furtwängler, l'élève le plus fidèle de Rahner, donna au manuel d'initiation à la pensée de son maître le titre significatif « Karl Rahner verstehen », donc « Comprendre Karl Rahner ». Il est vrai qu'il faut comprendre Karl Rahner pour pouvoir saisir à peu près comment un théologien ait pu à lui seul susciter une révolution telle que le fut le Concile Vatican II, ce qui ne veut pas dire que le Mysterium Iniquitatis soit éclairci. Lorsque Rahner écrit en 81, citation, « J'espère avoir contribué à évincer la néoscolastique du 19e et du début du 20e siècle », fin citation, il fait en vérité allusion au programme de toute une époque qui devait radicalement modifier la théologie catholique. Dans un temps où les idées libérales de l'Aufklärung européenne menaçaient de plus en plus l'Église à l'intérieur d'elle-même, les papes, depuis Léon XIII jusqu'à Pie XII, ont tenté d'écarter de l'Église l'esprit du siècle, Zeitgeist, destructeur et dévastateur, par un renouveau de la pensée philosophique et théologique. Comme il avait été suggéré dans la lettre Eterni Patris de Léon XIII, saint Thomas d'Aquin devait redevenir à la norme pour les études ecclésiastiques supérieures et être établi docteur universel de l'Église. Les professeurs de philosophie et de théologie étaient obligés de se tenir strictement à la méthode, à l'enseignement et aux principes de saint Thomas lors de leur recherche de leurs cours. Ces papes voyaient dans l'enseignement du docteur Angélique l'unique garantie et sécurité pour bannir loin de l'Église le danger de la contagion des idées de réforme, des recherches bibliques libérales et de la conception moderniste de la foi. Bien que le pape Pie X ait réussi à ralentir la progression du modernisme, il ne put arriver à le vaincre définitivement. Pour les ennemis de l'Église, l'attachement de Rome à la conservation de la foi traditionnelle transmise, au maintien de termes clairement définis et du depositum fidei inchangé, indépendant de l'époque, présentait un obstacle énorme. C'est pourquoi, à de multiples reprises, certains théologiens se révoltèrent contre ces mesures romaines qu'ils ressentaient comme une tutelle et une gêne pénible. On croyait avoir découvert, citation, que le début de la chrétienté, à partir de l'époque biblique, avait offert une plus grande richesse de pensée, une organisation de vie plus variée que ne le permettait le système romain. On découvrait que cet héritage pourrait porter des fruits dans le présent, qu'il ouvrirait de nouvelles voies à la prédication de l'Évangile dans le monde moderne. Ainsi, des mouvements bibliques et œcuméniques furent suscités au sein même de l'Église catholique. À force de tâtonner, on forgea peu à peu une nouvelle théologie qui présentait bientôt un visage à faces multiples. Cette pluralité fut encore accentuée par l'importance que l'on attribua tout à coup à la Bible, au Père de l'Église, à d'autres formes de spiritualité, à la liturgie. Fin citation. À cette époque, Forgrimler distingue deux générations de renouveau théologique. La première génération, donc survenue entre les deux guerres mondiales, tenta, citation, d'introduire la nouvelle forme de pensée au sein de la théologie, malgré le danger continuel venant des dignitaires ecclésiastiques. Fin citation. Une deuxième génération à laquelle appartenait Rahner se pencha sur des questions précises. Ces théologiens-là ne se contentèrent plus du renouveau qui se manifestait avant tout dans les pratiques de l'Église, notamment dans la nouvelle conception de la liturgie. La défense du christianisme contre un courant nouveau ne leur suffisait plus. Ils croyaient, au contraire, avoir trouvé la solution pour l'agnosticisme moderne sous forme d'une nouvelle théologie. Voilà l'illusion, croire qu'une théologie retournée à l'envers pourrait venir en aide au christianisme qui se débat dans un monde sécularisé. Rahner avait la ferme conviction que la néoscolastique et ce qu'il appelait avec mépris le monolithisme des Pies, donc des papes du nom de Pies, et la théologie d'école évincée, que la théologie susciterait un nouveau intérêt. Selon lui, la manière de procéder de la néoscolastique était strictement apologétique. Elle se tenait sur la défensive. Quant à lui, il voulait agir en créateur. Pour Karl Lehmann, lui aussi élève de Rahner et actuellement président de la conférence épiscopale en Allemagne, pour Karl Lehmann, la pensée de son maître est une, citation, « révolte dissimulée » contre une philosophie et théologie traditionnelle et surannée. Rahner réussit à donner une nouvelle signification aux notions de la scolastique. Avec talent, il donna l'illusion de laisser aux termes classiques leur contenu catholique tout en leur prêtant un sens nouveau. À ce moment-là, le cheminement intérieur de Rahner prend une importance de premier ordre. Sa conception de la foi qui du point de vue traditionnel serait indéfendable, devient pour lui une expérience fondamentale. Il écrit dans son œuvre « Schriften zur Theologie », écrit sur la théologie, citation, « J'ai expérimenté Dieu, celui qui n'a pas de nom, l'insondable, le Dieu silencieux et pourtant proche. Il s'est tourné vers moi dans sa Trinité. J'ai vraiment rencontré Dieu, le vrai et le vivant, celui qui porte le nom dépassant tous les autres. Dieu lui-même, c'est Dieu en lui-même que j'ai expérimenté. » Donc la foi qui est un expériment. Et non pas des paroles humaines sur lui. Sa mystique lui donne une telle certitude de la foi que si l'Écriture sainte n'existait pas, il resterait quand même inébranlable. Fin citation. Cette rencontre avec Dieu est banale et en aucune manière exceptionnelle. Chaque âme en fait l'expérience. Or, de cette expérience fondamentale naît ce qu'on a par la suite appelé le tournant anthropocentrique. dans la théologie de Rane où Dieu n'occupe plus la première place. Et Rane ajoute, si l'on veut bien parler de Dieu, il faut parler de l'homme. Voici l'origine de la théologie de Rane. Pour lui, la théologie transcendantale motivera désormais toute sa réflexion. Il faut bien voir, transcendantale signifie le contraire de transcendant, de l'au-delà. Ce n'est plus le Dieu supraterrestre, transcendant, qui se révèle à l'homme pour que celui-ci se soumette dans sa foi à la révélation. Désormais, c'est l'homme qui est transcendant, qui dépasse le monde. Lorsque l'homme se dépasse lui-même et dépasse le monde, il rencontre la transcendance, donc Dieu. La théologie ne se construit plus d'en haut, la science de Dieu, mais d'en bas, discussion sur l'homme. L'homme est l'être ouvert à Dieu. Il a une donnée surnaturelle, übernatürliches Existenzial, comme on dit. Une donnée surnaturelle, citation. C'est-à-dire que l'homme est en tant qu'homme, orienté vers Dieu. L'orientation vers Dieu fait partie de son être. La transcendance est donnée en même temps que la nature humaine. Elle n'est pas greffée sur la nature, comme le dit la néoscolastique, mais elle est sa base, son fondement. C'est pourquoi l'homme est depuis toujours porté par la grâce. Qu'il le veuille ou non, Dieu l'a depuis toute éternité adopté. Et Furkrimler, donc le disciple de Rahner, cite, transcendantal veut dire faire tout converger vers le bien, même si la plupart des hommes refusent Dieu ou l'oublient, ou que l'Église manque à sa mission. Certes, Dieu souhaite que l'homme adhère librement à son salut, mais il lui destine ce salut même sans cette adhésion. Tandis que la doctrine catholique dit avec saint Bernard de Clairvaux, se sauver veut dire consentir, pour Rahner, l'orientation de l'homme vers la grâce est un élément constitutif de sa nature, la grâce faisant partie de la structure fondamentale de l'homme. Voilà comment Rahner arrive au christianisme anonyme. Il confond nature et grâce et prône que cette dernière est partie constituante de la nature humaine. La grâce que Dieu offre en permanence à l'homme devient tellement caractéristique de son être, c'est un mot de Rahner, qu'il ne peut plus s'en défaire. S'il en est ainsi, la grâce de Dieu existe dans toutes les religions, et non seulement dans la religion chrétienne. Ne serait-ce que de façon imperceptible et dépravée. Ainsi, tout homme est, d'une manière inconsciente, chrétien. C'est le christianisme anonyme. Même les religions non chrétiennes sont des voies de salut où les hommes marchent à la rencontre de Dieu et de son Christ. Ce sont des christologues en quête. Dans les religions non chrétiennes, on ne croit pas au Christ comme le font les chrétiens, mais on le recherche. Qu'il y ait erreur ou déviation, peu importe. Rahner pense que même les athées peuvent être de ces chrétiens anonymes, s'ils, écoutent la voix pressante de leur conscience, ils peuvent acquérir leur salut. Même dans le marxisme, cette donnée surnaturelle qui fait partie de l'homme prédomine. C'était l'Esprit de Dieu qui était à l'œuvre dans son amour véritable et authentique pour l'homme misérable. Dans cette perspective, on conçoit que pour Rahner, l'œcuménisme devient une nécessité et le dialogue avec les athées est alors une démarche tout à fait compréhensible. pour lui création et rédemption, nature et grâce, homme et Dieu sont un, inséparables. La raison pour laquelle cette théologie radicalement nouvelle exerça une telle fascination sur toute une génération de théologiens fait partie du mystère du mal. Il est certain qu'elle fut la source principale de la rupture avec la théologie traditionnelle lors du Concile Vatican II. Parlons maintenant de Rahner qui s'achemine vers le Concile, donc les années avant, juste avant le Concile, ses difficultés avec Rome. Il est significatif que Rahner ne se soit rendu à Rome qu'en 55. Il avait alors plus de 50 ans. Son ordre l'avait invité à prêcher les exercices spirituels au Collegium Germanicum. Il semble y avoir été invité à dessein bien que, ou parce que, il a fait parler de lui à Rome suite à quelques-unes de ses publications critiques. On attendait d'autant plus de lui. La même année, le généralat de son ordre lui refusa l'imprimatur pour un livre intitulé « Probleme heutiger Mariologie »,« Problème de la Mariologie actuelle ». Il l'avait rédigé suite au dogme sur l'assomption de la Vierge Marie au ciel avec son corps et son âme. Rahner y parlait, citation, de la possibilité pour l'homme de trouver son achèvement total, donc aussi corporel, au moment de la mort, c'est-à-dire tout de suite, et non pas seulement au jugement dernier, justifiant cette hypothèse par une conception unitaire de l'homme, mais essentiellement spirituelle. Fin citation. Grâce à cette interprétation radicalement opposée au dogme, il put l'accepter en relativisant et en atténuant ses doutes. Une autre pierre d'achoppement entre lui et Rome était la concélébration. Déjà en 49, Rahner publia l'essai « Die vielen Messen und das eine Opfer »« Messe multiple et un seul sacrifice ». La question soulevée était de savoir si le nombre de messes en augmentait aussi les grâces, et si de nombreux prêtres pouvaient concélébrer de sorte qu'ils ne diraient pas plusieurs, mais une seule messe. Avec ces théories, Rahner bouscula les arguments traditionnels. Bidouze prononça une mise en garde officielle sans toutefois mentionner le nom de Rahner. Le Saint-Office interdit à Rahner de poursuivre les débats sur ce sujet-là. Voici une anecdote éclairante rapportée par Rahner lui-même. Citation. J'ai fait connaissance du pape Paul VI lorsqu'une audience privée après le concile. Je lui dis, « Voyez, Saint-Père, il y a 10 ans, le Saint-Office m'avait interdit de parler au sujet de la concélébration et aujourd'hui, vous-même, vous concélébrez. » Alors le pape sourit doucement et dit, « Est tempus flendi, est tempus ridendi. » Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Je n'ai pas bien saisi quel lien il y avait avec notre propos, mais je suppose qu'il voulait dire que partout, et aussi dans l'Église, les temps et les mentalités évoluaient et qu'on n'y pouvait rien changer. D'autres difficultés avec les représentants de la théologie traditionnelle s'annonçaient. L'édition du Lexikon für Theologie und Kirche, un dictionnaire de théologie et de l'Église, TTC, œuvre très importante qui lui permettait de s'infiltrer avec sa nouvelle théologie dans la pensée des étudiants en théologie et des futurs prêtres. Selon Forkrimler, Karl Rahner n'avait nullement eu l'idée d'utiliser ce dictionnaire comme tremplin pour exposer sa théologie. Mais en tout cas, cette édition exerça une influence incontestable dans la formation théologique de la génération du Concile. Toutefois, quelques-uns des environ 30 000 articles furent contestés. L'archevêque Buchberger, qui dans les années 30 avait lui-même édité un tel dictionnaire, critiquait ces articles en raison de leur langage existentialiste. et le cardinal Bea en personne constata avec étonnement dans l'Osservatore Romano que le premier tome contenait des affirmations étrangères en l'enseignement de l'Église communément approuvée. Et pour montrer cette pensée existentialiste, j'ajoute un citat rapporté par un père en tant que témoin oculaire c'était en 59. Le recteur de la Grégorienne de Rome discuta vivement avec Rahner sur Agere sequitur esse. Rahner affirmait le contraire, esse sequitur agere, sur quoi le recteur déclara qu'en de telles conditions, toute discussion était impossible et qu'il n'était pas prêt à parler avec cet homme. Rahner, la tête en feu, quitta le podium. Fin citation. Ces attaques, donc ces critiques, n'impressionnèrent guère Rahner. Il n'était que trop conscient de l'importance de ce dictionnaire pour l'expansion de sa théologie. Grâce à des diverses séries de publications, son travail eut une influence presque mondiale. Il s'agit surtout de sujets actuels, notamment du renouveau de l'Église, de la formation doctrinale, du domaine pastoral, réintroduction du diaconat, etc. Il était d'avis qu'il était plus aisé d'obtenir des réformes dans le domaine pastoral qu'en dogmatique. Un autre sujet délicat qui accentuait la mésentente avec la Rome anticonciliaire était le traité sur la maternité virginale, apparu en 60. Il s'agit du dogme catholique affirmant que la mère de Jésus est restée vierge, même pendant l'enfantement, virginitas in partu. Et pour donner un exemple, comment cette théologie nouvelle explique, je cite un texte de Furkrimler. Rahner, cherchait à transmettre au public moderne cet enseignement sur Marie, mère de Dieu et toujours vierge. Il interprétait les vénérables termes de cette doctrine à sa manière, à lui, très caractéristique. Il interroge sur le fond de l'affirmation et essaye de toutes ses forces de ne pas le perdre de vue. Il questionne ensuite sur les conditions et modalités de ce fond, c'est-à-dire sur les changements auxquels sont soumis les choses immuables, et il tâche de faire comprendre pourquoi les hommes de toutes les époques sont inévitablement obligés de se servir de ces conditions pour exprimer la chose elle-même. Or, le but de tous les auteurs anciens qui ont disserté sur la virginité de Marie n'était certainement pas de fournir des données biologiques et anatomiques. Alors, Rahner demande ce que virginité signifie au fond. La réponse qu'il donne est mi-spirituelle, mi-théologique. Vu de cette manière-là, une personne est vierge lorsqu'elle est entièrement orientée vers l'accomplissement de la volonté divine, lorsqu'elle est disponible pour Dieu. Fin citation. Ce traité de la maternité virginale, dans les cercles romains de sérieux remous. On entendait dire que cette fois-ci, on allait vraiment prendre des mesures contre Rahner. Ou si le cardinal Döpfner voulut-il intercéder en sa faveur auprès de pape Jean XXIII lors d'une audience, 61. Le cardinal Döpfner avait depuis toujours un grand respect et de forte sympathie pour Rahner. Le succès de sa démarche fut plus que satisfaisant. Non seulement il n'y eut pas de poursuite, mais Rahner fut même nommé conseiller de la commission préparatoire de la discipline des sacrements par le pape. Ainsi, l'affaire fut-elle réglée en haut lieu. Mais les soupçons contre Rahner furent tels que la faculté grégorienne des jésuites de Rome, qui l'invita d'abord, annula ensuite cette invitation. Un an avant l'ouverture du concile, Rahner publia deux œuvres importantes pour les travaux du concile, Episcopat und Primat, donc Episcopat et Primat, en 61, en collaboration avec Joseph Ratzinger, et Diaconia in Christo, au sujet d'une réforme du diaconat. À la fin du mois d'octobre, le cardinal König nomma Rahn son conseiller et expert personnel. En tant que conseiller du cardinal König, qui était lui-même membre de la commission préparatoire, la tâche de Rahn était surtout de prendre connaissance des plus de 70 textes et schémas préparés par les différentes commissions pour la commission centrale. Plus de 20 ans après, König explique pourquoi il avait choisi précisément Rahn. Citation. Avant le début du concile, Rahn s'était déjà fait un nom en tant que professeur et écrivain. Souvent, il abandonnait les conceptions théologiques traditionnelles pour pénétrer dans des profondeurs et des connaissances nouvelles. C'est pourquoi il me semble être l'homme idéal pour s'acquitter des tâches d'un expert conciliaire. De plus, son zèle et son énergie inépuisable le désignaient pour ce poste. Fin citation. Tout d'abord, Rahn hésita à travailler à la préparation du concile, mais il profita par la suite de cette occasion pour lancer sa nouvelle théologie. Citation. Rahn jugeait les textes préparés tout à fait insuffisants parce qu'ils n'exploitaient pas entièrement les possibilités offertes par un concile, que ce terme était désuet. C'est pourquoi il se mit à publier dans divers journaux des articles progressistes au sujet du concile. Fin citation. Le renouveau du diaconat lui tenait très à cœur. Il se promettait, citation, beaucoup de cette réforme interne et espérait en obtenir une conception du clergé moins figée, plus variée. Il fallait que le clergé fût capable d'exercer avec compétence des métiers profanes et de pouvoir en vivre. Ainsi, il éviterait désormais d'offrir au monde le spectacle d'une sacralité qui lui fût étrangère. Il pourrait être marié ou non. Fin citation. Ce renouveau devait, selon Rahner, mener à une nouvelle conception du sacerdoce. Déjà en 61, à Rome, il avait rédigé un mémoire sur le sujet et aussi un article qui devait plus tard aboutir en son livre mentionné plus haut. De ses lettres à Furkrimler se dégage avec netteté que, pour lui, le diacre marié devait devenir un fer de lance qui, après le concile, bouleverserait et mettrait en mouvement maintes choses. Citation. « Si nous ne sommes pas vainqueurs cette fois-ci, » donc c'est Rahner qui parle, « nous le serons au prochain concile. Il est certain que le livre sera bien. » Il faut qu'il soit publié. Si les Romains refusent les réformes concernant le diacre, notre livre prend alors encore plus d'importance. Raison de plus que la discussion reste ouverte. J'imagine facilement que, quelques années après le concile, un pape permette au moins à certains évêques dans certaines régions l'existence du diacre, justement parce que la question est restée suspendue. Fin citation. Simplement, pour vous montrer sa pensée. Sur l'initiative de Furkrimler, le livre sur le diaconat devait être dédié au primat de Pologne, le cardinal Stefan Wyszyński. Pourquoi ? Pour gagner également les nombreux évêques polonais à la théologie d'Europe centrale et au diaconat. Il est assez surprenant qu'à cette époque-là, Rahner ait été menacé de la censure préventive romaine, c'était le 7 juin 62. Le Saint-Office soumit alors toutes les publications de Rahner à la censure. Le cardinal Alfredo Ottaviani, préfet du Saint-Office, avait manifestement remarqué les thèses de Rahner et il voulut par la suite empêcher sa participation au concile, puisqu'il était en repris de justice en raison de la censure préventive. Rahner écrivit à Furkrimler, « Désormais, on soumettra tous mes écrits à une censure préventive romaine, comme on a fait avec Delubac et Congar. J'ai déjà déclaré qu'en ce cas-là, je n'écrirai plus rien. Et j'ai pensé, alors je m'appellerai désormais Furkrimler Metz Tarlap. » Donc les disciples de Rahner. J'en ai déjà averti König, Töpfner, Volk et Höfner dans une longue lettre. Fin citation. Sur cela, le cardinal König intervint auprès du pape Chauvin III qui lui regretta toute l'affaire. De son côté, Rahner organisa des protestations de la part de laïcs contre ses tentatives de le museler. Une pétition se fit. Environ 250 scientifiques et politiciens suisses, allemands et autrichiens signèrent en 62 une lettre adressée au pape que le cardinal Biya lui remit. Le chancelier allemand Adenauer rédigea dans le même sens une déclaration personnelle. Les cardinaux Döpfner, König et Fring s'adressèrent un mémoire au pape. Et en octobre, donc 4 mois après cette censure préventive, Rahner fut nommé expert du concile, peritus, par le pape. Le cardinal Ottaviani ne protesta pas, même pas lorsque Rahner assistait aux réunions des commissions. Et le 28 mai 62, le maître général des Jésuites fit savoir à Karl Rahner que le Saint-Office a renoncé à poursuivre l'affaire de la censure. Lorsqu'à la fin d'octobre, Karl Rahner fut nommé expert officiel du concile avec environ 190 autres théologiens, il était le mieux préparé. Son travail dans la commission préparatoire pour les sacrements l'avait sans doute aidé aussi, souvenons-nous, fut-il le théologien personnel du cardinal König. Mais c'est avant tout grâce à ses livres et ses écrits qu'il fut prêt. Le commentaire officiel des textes du concile, donc de langue allemande, le cite 95 fois, tandis que saint Thomas n'y figure que 48 fois. Yves Congar, 67 fois, Henri de Lubac, 15 fois. Cette fréquence frappante est un double indice. Juste après le concile, on tenta manifestement de faire coïncider les idées du concile avec les écrits de Rahner, dont la pensée s'aligne facilement sur les idées conciliaires. D'autre part, on ne peut nier que la pensée de Rahner a déjà pénétré dans le concile, c'est-à-dire dans presque tous ses textes. Car 67 sur 95 citations se réfèrent aux écrits de Rahner, dont 14 sur l'Église, 9 sur l'Épiscopat. Le livre Diaconia in Christo, donc de Rahner, fut même le manuel de base pour le travail de la commission concernée, Rahner étant le seul spécialiste en dogmatique à avoir abordé cette question avant le concile. Vouloir démontrer l'influence de Rahner et des autres théologiens de façon précise et exhaustive est néanmoins une entreprise difficile. Les sentiers empruntés par les schémas préparatoires sont trop sinueux, les discussions et critiques trop confuses, l'obtention des majorités trop obscure et le retournement des convictions trop subtiles. Nous nous limiterons donc à démontrer l'influence des théologiens allemands sur les documents du Concile par leur participation à ces travaux. Commençons avec la première session, 11 octobre jusqu'au 8 décembre 62. Au début, le vrai travail de Rahner s'effectuait loin des assemblées officielles. Il tint des conférences en présence des évêques de langue allemande, il fut invité par les évêques sud-américains, il participa à des rencontres de théologiens français, allemands, etc. Les discussions d'Alola conciliaire débutèrent par le schéma sur la liturgie. Le schéma présenté au concile avait essentiellement été préparé par Josef Andreas Jungmann. Nommé expert en octobre 62 comme Rahner, Jungmann était depuis le 25 août 60 membre de la commission préparatoire pour la liturgie. Un de ses objectifs principaux était l'usage de la langue vernaculaire. Avec l'aide de Carlo Colombo, c'est un ami de Montini, et les cardinaux Montini et Leccaro, il obtint que le représentant des pays européens se concertèrent sur ce sujet. Aussi fut-il invité à des exposés et discussions au sein de conférences épiscopales et de groupes d'évêques pour y parler de la création d'une nouvelle liturgie. Jungmann écrit « Il va de soi que j'ai accepté avec plaisir. Je pus ainsi développer mes idées. Ne pas créer quelque chose d'entièrement nouveau, seulement éclectique, mais ériger quelque chose sur les bases les plus anciennes de la liturgie romaine qui s'approche de l'Eucharistie d'Hippolyte. Voilà une semence qui portera ses fruits ça et là. » Le schéma sur la liturgie fut discuté intensivement lors de la première et deuxième session et ensuite promulgué le 14 décembre 63. Ce fut la constitution sur la sainte liturgie. À la grande déception des rénovateurs, cette constitution n'entra pas tout de suite en vigueur afin de laisser le temps nécessaire à l'élaboration de nouveaux livres liturgiques. Le pape Paul VI créa le 5 mars 64 un conseil pour l'application de la constitution sur la liturgie sacrée, dont le cardinal Lercaro fut président, le père Bonini fut son secrétaire, et Jungmann, donc ce théologien autrichien, en fut nommé conseiller. Le 14 novembre 62 commença la discussion sur le schéma sur les sources de la révélation. Il portait la marque du père Sébastien Tromp, jésuite, et avait été présenté par le cardinal Ottaviani. Comme ce schéma évoquait deux sources de la révélation, il fut attaqué avec véhémence par les représentants de la nouvelle théologie, en particulier par Schilebeck. Et Forkrimler ajoute pourquoi cette question était si importante pour les théologiens libéraux. Il dit: il s'agissait d'un sujet qui tenait une position clé dans la théologie et dans l'Église, et cela pour plusieurs raisons. S'il existait vraiment une deuxième source de la révélation en dehors de l'Écriture sainte, à savoir la tradition transmise oralement, il n'y aurait plus obstacle à ce que le credo, le contenu de la foi, soit élargi. Il serait alors toujours possible de découvrir du nouveau dans la tradition orale. En même temps, et ça c'est la raison profonde, en même temps, il deviendrait impossible de s'entendre avec les chrétiens basant leur foi sur l'Écriture seule. Rahner fut également de son mieux pour saboter les schémas de Tromp. Il s'y employa en exposant son propre point de vue devant certains évêques et théologiens et en présentant ses idées à lui. Par ailleurs, il devait s'adonner toujours plus et avec une attention particulière au travail concernant les constitutions dogmatiques sur l'Église, Lumen Gentium, sur la révélation des Verbum et la constitution pastorale sur l'Église dans le monde moderne, Gaudium et Spes. Les théologiens de l'Alliance comprirent très vite qu'il ne suffisait pas d'attaquer les schémas préparatoires. Il leur fallait rédiger des textes de remplacement, Ersatzschema, afin d'être à même de proposer autre chose au cas où les textes suggérés seraient refusés ou substantiellement modifiés. Rahner composa en latin une expertise critique et soumit avec Ratzinger un schéma conçu par lui. Il prétendait que le schéma de la commission préparatoire était trop long et ne tenait pas suffisamment compte des besoins pastoraux. Selon lui, l'esprit œcuménique lui faisait défaut. Ratzinger fut d'un grand soutien pour Rahner. Citation, Rahner: je m'entends bien avec Ratzinger et il a du crédit auprès de Frings. Fin citation. Otto Semmelroth, jésuite, le soutenait également avec ardeur. Il logeait, comme Rahner et le cardinal Döpfner, au Collegium Romanum. Une note de Rahner, 62, montre à quel point l'élément allemand était bien organisé. Citation. Ces derniers jours, j'ai rédigé en latin une expertise critique contre le premier schéma dogmatique, donc sur l'Église. Cet après-midi, tous les évêques allemands la tiendront en main. Les experts allemands en ont déjà tiré 400 exemplaires. Demain, il me faudra faire un exposé pour les évêques sud-américains. Peut-être, après tout, obtiendrons-nous un bon tiers des voix, ce qui empêcherait le pire. Frings est optimiste, d'autres, et j'en suis, le sont moins. Videbimus. Frings distribue aussi environ 2000 exemplaires d'un pseudo-schéma fabriqué par Ratzinger et moi. Mais je pense qu'il y a très peu d'espoir pour celui-ci. Fin citation. Rahner et ses suppôts ignoraient encore quelle tournure prendrait le concile. Et s'il pourrait évincer le schéma conservateur, son pessimisme le prouve. Mais en une semaine seulement, entre le 14 et le 21 novembre, le vent souffle définitivement en faveur de l'Alliance européenne au cours de quelques congrégations générales assez mouvementées. L'évêque de Smet de Bruck fit sienne la critique exprimée par Rahner concernant le schéma préparé. L'Assemblée éclata en applaudissements lorsqu'il prononça son fameux discours sur l'œcuménisme. Cette intervention amena un tournant décisif pour le Concile. Après des débats agités, on se prononça le 20 novembre contre le schéma sur les deux sources. Et le père Ronquette, jésuite, qualifia ce jour de fin de la contre-réforme. Le lendemain, le pape le fit annuler et 4 jours plus tard, créa une commission chargée de corriger le schéma des Fontibus Revelationi. C'était plus qu'un tournant. À partir de ce moment-là, le concile prit une tournure qui dépassait de loin tous ceux que les membres de l'Alliance européenne avaient pu imaginer. Hans Küng, notre théologien suisse cette fois, dit à ce propos: aucun de ceux qui sont venus ici pour le concile ne rentrera chez lui tel qu'il était auparavant. Personnellement, jamais je ne me serais attendu à ce que les évêques parlent de façon si osée et si explicite en l'aula conciliaire. Fin citation. Les discussions à propos du schéma sur l'Église commencèrent le 1er décembre. Dès le 5 décembre, la première session devait toucher à sa fin. 3 jours plus tard, le cardinal König amena Rahner aux réunions de la commission mixte dirigée par les cardinaux Ottaviani et Bea. C'est alors que Rahner remporta des succès décisifs. Son influence augmentait avec la durée du concile. Citation. Rahner gagna par la suite l'estime de tous, même des théologiens du parti opposé, des Italiens, et d'autres théologiens formés dans la scolastique traditionnelle. Fin citation. Les théologiens progressistes l'admiraient franchement, Yves Congar disait, lorsque Rahner parlait, il le faisait de toute son âme. Un expert allemand, le père Wolf, jésuite, rapporte, citation, pour montrer comment on admirait. On était bouleversé face à ce théologien Rahner. Citation. Lors d'une discussion très animée, le père Rahner se leva brusquement, parcourut d'un pas énergique la salle et se dit en lui-même à mi-voix alors, et commença à se réciter ou aux autres un texte latin qui concernait la question soulevée. Tous les regards se tournèrent vers lui. Et le père Semmelroth, un autre théologien allemand, était déjà prêt à prendre des notes afin de sténographier ce qu'il allait dire. Nous étions tous des periti et reçûmes comme Rahner la médaille commémorative du concile. Mais à ce moment-là, nous nous taisions tout simplement devant le génie d'un maître. Fin citation. Lorsque le 8 décembre 1962, on clôtura la première session, aucun texte n'avait été promulgué, mais les discussions sur la révélation et sur l'Église pâtaient leur plein. Citation de Wiltgen. La réjection des schémas et la rapide évolution des points de vue constituèrent les marques distinctives de la première session du deuxième concile du Vatican. Le temps entre les sessions fut employé de manière efficace par l'élément allemand pour mieux répandre la nouvelle théologie. La deuxième session. 29 septembre jusqu'au 4 décembre 63. En février 63, Rahner fut officiellement nommé peritus et membre d'un groupe d'experts ayant pour tâche de rédiger un nouveau texte sur l'Église. Alors commença la deuxième session le 29 septembre. Elle devait traiter trois schémas sur l'Église, sur les évêques et sur l'œcuménisme. Rahner était infatigable. Il écrivit sans cesse des rapports, entre autres, sur la Vierge Marie pour la conférence épiscopale allemande et autrichienne. Il poursuivit en même temps son travail sur le schéma sur la révélation. De plus, le cardinal König lui fit parvenir de nouveaux documents. Il s'agissait de faire l'ébauche d'un nouveau schéma sur l'Église dans le monde moderne. Le schéma sur l'Église fut traité lors de la conférence de février à Munich, présidée par le cardinal Döpfner. Y participaient les évêques et théologiens de langue allemande. Leurs travaux aboutirent à un nouveau schéma qui devait remplacer l'ancien. Tous les 12 schémas approuvés par le pape en avril 63 furent analysés à la conférence de Fulda fin août, qui, elle, était présidée par Frings. 4 cardinaux et plus de 70 évêques de tous les pays de l'Alliance y étaient présentés. Rahner, comme dit Wildken, la tête pensante de la conférence de Fulda, rédigea des analyses concernant les schémas sur la révélation, la Sainte Vierge et l'Église. Grâce à ce travail admirablement organisé, chaque père conciliaire de langue allemande avait reçu un total de 480 pages ronéotypées de commentaires, de critiques et de schémas de remplacement avant de se mettre en route pour la deuxième session. Le 30 septembre, on commença à discuter les schémas d'Ecclesia dans l'aula conciliaire. Le cardinal Ottaviani présenta le texte révisé. La collégialité était au centre de la discussion, thème qui présentait aux yeux de Paul VI, citation, l'aspect de l'Église le plus important pour le Concile. Pour traiter ce sujet, les pères allemands se servaient du livre de Karl Rahner, Episcopat und Primat, nouvellement réédité avec Ratzinger, citation, quant à Rahner, il faisait partie d'une sous-commission chargée du schéma sur l'Église. Il concentra ses efforts avant tout sur le thème de la collégialité des évêques et de leur relation avec le pape, et aussi sur la place des églises locales. Le 7 octobre, il écrivit de Rome, « Samedi matin, j'ai rédigé un texte avec l'aide de Semmelroth et Ratzinger sur la collégialité de l'épiscopat. Ensuite, j'ai passé tout l'après-midi à en pousser et superviser le tirage dans le bureau de Frings. De cette manière-là, nous avons pu caser 2400 exemplaires. » Fin citation. Ou commençons avec la troisième session. Les théologiens allemands étaient toujours aussi ardents au cours de cette troisième session, notamment Rahner, qui était en train d'élaborer des textes sur l'Église, la Vierge, sur la Révélation et aussi sur l'Église dans le monde entier. Une nouvelle époque commença alors pour les théologiens allemands. Si, au début du Concile, il avait essayé d'empêcher le pire et dans un deuxième temps, de laisser, si possible, les textes en suspens et de ne rien dire qui puisse mener à une définition dogmatique, il s'agissait maintenant de s'emparer du pouvoir. On ne pouvait plus revenir au temps d'avant le Concile, après ce début de tous les débuts, comme disait Rahner. Il fallait que la nouvelle pensée, la nouvelle théologie, fût enfin victorieuse, victoire du modernisme qui eut effectivement lieu. Alors, dans cette troisième session, je voudrais parler de l'influence de Rahner sur la collégialité, qui était aussi décisive. Et après le décret Dei Verbum et Gaudium et Spes, peut-être pour finir, le décret Gaudium et Spes. Le point culminant de cette session fut sans doute la discussion sur l'Église dans le monde moderne. Le schéma avait été suggéré par le pape Jean XXIII. Et c'est peut-être surprenant que Rahner, de plus en plus, critiquait fortement ce décret. C'est peut-être la seule chose qui est positive. Il est cependant vrai que peu à peu, il critiqua violemment le schéma suivi par l'épiscopat allemand. Pourquoi ? Vous verrez. Voilà les points de divergence essentiels. Citation : manque de vue historique, doctrine sur le péché insuffisante, absence d'une théologie de la croix et eschatologique, naturalisme, optimisme. Rahner était de sa nature un pessimiste. Et Congar cite, dans une citation, Rahner n'a jamais tenu en haute estime le schéma Gaudium et Spes. Généralement, les évêques allemands et les experts tels que Ratzinger le jugeaient trop optimiste, un peu théiardin, et ceux qui n'étaient pas faux, donc c'est Congar qui dit, assez français. Selon Rahner, de nombreuses affirmations étaient un peu vagues et floues, et ainsi de suite. Par contre, Bernhard Ehring, théologien de morale et professeur à Rome, a manifestement collaboré à ce schéma en y soulignant l'aspect biblique. Ehring était aussi dans la sous-commission centrale qui révisait le schéma définitif, donc ce schéma Gaudium et Spes. Il exerça une influence profonde sur ce schéma. C'est lui qui a joué un rôle important lorsque la condamnation du communisme fut empêchée au Concile. Il rédigea l'article 16 de la Constitution sur la dignité de la conscience éthique et influença de manière décisive l'article 51 sur l'amour conjugal et la propagation de la vie humaine, point qui était décisif. La condamnation de toute contraception prononcée dans Castico Nubi fut considérablement affaiblie grâce à lui. Ehring fut un expert extrêmement libéral et agressif. Et si la constitution pastorale sur l'Église dans le monde moderne est plutôt un luctus et angor qu'un gaudium et spes, c'est à lui que nous le devons. Quatrième session. Il peut paraître étrange que l'influence des experts allemands ne se fit qu'à peine sentir au cours de la quatrième session. Il semble que tout était aiguillé. Ratzinger collabora au schéma sur les missions. Quant à Rahner, son rôle fut très discret pendant la quatrième session, sauf pour la question du nouveau règlement sur les indulgences. Cela peut tenir à la fatigue générale du Concile ou à sa succession à la chaire de Romano Guardini après son déménagement d'Innsbruck à Munich. Il eut de nombreuses conférences et publia en 65 presque 200 titres bibliographiques. Quoi qu'il en fût, il écrivit au début de la quatrième session, citation, « Ici le temps est encore la chose la plus agréable. Sinon, il ne se passe pas grand-chose. Et le 18 octobre, le concile est ennuyeux. » Conclusion. Montrer l'influence des experts allemands au Concile Vatican II n'est possible que globalement. Leurs propos et leurs écrits sont bien trop nombreux, emmêlés et obscurs. Leur influence, cependant, fut immense et durable et, comme il faut constater 30 ans après le Concile, lourdes conséquences et mauvaises pour le développement de la théologie et de la vie de l'Église. L'impact de cette influence perverse laisse entrevoir les possibilités des théologiens, par exemple allemands, en vue d'un renouveau dans l'Église. Cela n'a pas été. Se faisait-il des illusions? La lumière divine de la foi catholique leur a-t-elle fait défaut? Ou bien les vertus chrétiennes, l'amour de la Sainte Église catholique et romaine leur ont-ils manqué? Faut-il chercher la raison de cette confusion dans ce qu'on appelle le Mysterium Iniquitatis? Une bonne influence aurait été possible, Abbé Berthaud, théologien personnel de Mgr Lefebvre à partir de la deuxième session, écrivit en juin 63, citation. Le monde a moins besoin d'adaptateurs à tout prix que de témoins de la transcendance, ou, comme disait Léon Blois, de pèlerins de l'absolu. La Trinité, l'incarnation, la rédemption, l'Eucharistie, la grâce sont et seront toujours des vérités parfaitement inadaptables, car elles sont l'âme même du catholicisme. Alors que nous parle-t-on d'adapter le catholicisme aux hommes de notre temps, qui au surplus ne diffèrent pas des hommes de tous les temps. Fin citation. L'on peut supposer que des théologiens plus ardents dans la foi aurait su exercer une influence bienfaisante et riche en bénédictions sur le Concile. Je vous remercie.